français. Quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse.
Voilà, rebonjour chers auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors maintenant, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la curulence. Comment un juge peut aussi facilement déclarer un plaidant curulent et de ce fait-là, il le réduit au silence. Et avant de passer à mes deux invités qui sont devant moi, M. Sylvain Paquette et M. Pogan, j'aimerais bien poser une question à Ernest, mon collègue Ernest. J'aimerais savoir, est-ce que voulez-vous nous donner un historique, mais vraiment deux, trois minutes, là, deux minutes peut-être, sur la curulence. Elle vient d'où? Comment elle s'est installée ici au Québec et c'est plus récent depuis neuf, hein?
Pour bien comprendre le phénomène de la curulence, puis la manière dont c'est appliqué présentement dans le droit au Québec, il faut retourner un peu dans l'histoire, notamment en l'ex-URSS, l'Union des républiques socialistes et soviétiques.
C'est en quelle date? Vous parlez de quelle date?
On parle de l'époque sous Staline.
Oh my God! Ouf.
Notamment, où la psychiatrie avait été instrumentalisée de manière à réduire au silence les dissidents du régime.
Ça, c'est la curulence, ça.
C'est-à-dire qu'on a utilisé la psychiatrie pour faire pour accorder des faux diagnostics de maladies mentales à des individus qui étaient autrement sains d'esprit.
Oui.
Uniquement dans le but de les réduire au silence. Et puis on leur octroyait de faux diagnostics, on les plaçait dans des hôpitaux,
Vous êtes en train de dire, Ernest, comme quoi même les opposés politiques et tout, pour vraiment les réduire au silence, ça c'est un procédé.
Ça c'était utilisé à l'époque dans l'Union soviétique, et puis on constate actuellement qu'au Québec, la manière dont la modification du code de procédure civile qui a été instaurée en 2009,
c'est Jean Charest, hein,
à l'époque de Jean Charest, c'est la manière dont c'est appliqué au Québec, c'est encore une fois pour réduire au silence ceux qui dénoncent avec un peu trop peut-être de véhémence, selon l'opinion de certains, le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire au Québec. OK? J'aime rappeler que, comme on l'a vu devant la commission Charbonneau, Il y a énormément de collusion et de corruption dans le domaine des travaux publics au Québec. Ben, moi, je peux vous assurer une chose.
Mais c'est que
la collusion et la corruption n'est pas l'apanage exclusif du domaine des travaux publics. Elle est bien présente également dans le domaine de la justice. Et ceux qui dénoncent la présence de la collusion et de la corruption au sein de l'appareil de justice, ont souvent se font attribuer le statut de plaideur quérulent pour les réduire au silence. Et même dans certains cas, encore une fois, on les interne de force dans les hôpitaux psychiatriques, puis on les drogue de force. J'en connais personnellement.
Vous parlez ici au Québec?
Ici au Québec.
Ici au Québec?
Absolument.
Ah, tu me fais peur.
Mais ça fait peur.
Ça fait vraiment peur.
Mais cette réalité ne transparaît pas dans les médias, parce que les médias
au Québec sont... Je suis d'accord avec vous. Je tourne une seule chose. Si, je l'ai bien dit, si on déclare une seule personne faussement, plaidant, curulent, toute la question devra se remettre en question.
La crédibilité de l'appareil judiciaire est en
cause.
Absolument. Puis regardez, on a présentement autour de la table deux individus qui sont dans deux domaines complètement différents. Un entrepreneur et puis...
Un médecin.
Qui ont eu des démêlés dans le système de justice au Québec. Et les deux ont cherché en vain d'obtenir justice. Et le résultat de leur démarche, après des années et des années de démarches infructueuses, ça a été de se faire déclarer plaideur quérulent. Donc, on a l'illustration aussi. On en a deux autour de la table, mais on aurait pu remplir la salle.
Mais apparemment, on a un sérieux problème, c'est ça?
Bien, on a un problème, c'est sûr. On a un problème au niveau de l'administration de la justice au Québec. Ça, c'est clair.
OK. Alors maintenant...
Et la ministre Stéphanie Vallée est dûment informée qu'il y a des graves problèmes au niveau de l'administration de la justice au Québec. Et à date, on attend toujours de voir
Je ne veux pas qu'on rentre dans un mélange, on ne mélange pas les choses, là on parle de la curulence.
La curulence fait partie de ce problème.
Curulence. Alors, écoutez là, bonjour monsieur Sylvain Paquette.
Bonjour monsieur
Zitini. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Je sais que c'est la troisième fois que vous venez sur ce plateau.
Oui.
Est-ce que ceci veut dire que la prochaine fois, on peut vous déclarer curulent? Parce que...
la prochaine fois, je ne sais pas, on va peut-être déclarer outrage au tribunal parce que je dénonce cette injustice.
Vous dénoncez, c'est... Monsieur Paquette, le 26 septembre, on parle du mois passé, vous s'êtes déclaré plaidant curulent. Est-ce que c'est exact?
Exactement.
Alors, pour essayer de résumer un petit peu votre histoire très vite, rapidement, pour les gens qui nous écoutent ce matin, je peux dire que, et vous me corrigez si je me trompe, vous étiez engagé, on parle de départ, vous étiez engagé à faire des travaux dans un lieu commercial.
Oui.
Et vous arrivez et vous constatez que l'endroit où vous devrez exécuter les travaux n'était pas sécurisé. Et malgré ce souci et le danger, le propriétaire du lieu vous a rassuré en mettant un câble, soi-disant, qui vous empêche de tomber de haut, puisqu'il s'agit quand même d'une hauteur de 16 pieds. Est-ce que c'est exact?
Exact.
Alors maintenant, vous travaillez et ce que vous avez prévu est malheureusement arrivé. Vous chutez en bas de ces 16 pieds. La chute était brutale. On parle ici de 27 fractures, un poumon perforé, 4 jours dans le coma. Et les médecins, pour en conclure, vous tiennent chanceux d'avoir resté en vie.
Exact.
Mais selon cette tragédie, il est tout à fait légitime, je pense, de poursuivre le propriétaire du commerce pour dommages et intérêts.
C'est bien ça.
Et dans votre poursuite, justement, vous avez réclamé au propriétaire de commerce une somme de 280 530. Je parle de 280 000 $. Hein.
Au départ, mon avocate, sans rentrer tout dans les détails, c'était 216 000. Après ça, elle dépose une autre requête. Elle amende cette première requête-là au montant de 196 000. Donc, il y a 26 000 $ de moins, 190 000. Oui. Donc, 26 000 $ de moins. Elle amende, 13 jours plus tard, une autre requête au montant de 205 000.
Ça, c'est votre avocate, là?
Oui, mon avocate originale.
Elle insiste de mettre le montant. C'est elle qui l'a établi, le montant de 280 000.
C'est ça. Puis voilà. Pour finir en 2008 avec le montant de 280 530 et 78.
Excellent. Alors vous avez souhaité tenir le responsable du commerce pour de ne pas avoir sécurisé l'endroit puisqu'il était le maître de son œuvre.
C'est ça.
Encore mieux, le propriétaire du commerce avait admis, ça c'est important, il avait admis en mars 2007 sa responsabilité et sa négligence, et malgré cet aveu, le juge fourni de la Cour supérieure Maintenant, selon ce que vous rapportez, justement, de la version de l'avocate, le juge Fournier de la Cour supérieure avait demandé le 12 et le 13 mars 2009 de scinder le procès en deux. Un, justement, pour déterminer la responsabilité s'il aura lieu, et un autre pour évaluer les dommages causés lors de cet accident.
C'est ça. Puis ma question est, pourquoi scinder le procès? Demander scinder le procès aux avocats, aux deux avocates présentes, mm-hmm. alors que le propriétaire avait admis sa responsabilité.
C'est ça, ce qui est, puisqu'il a admis. C'est la bonne question que je voulais vous poser. Mais je continue toujours pour que les gens qui sont en train de nous entendre ce matin ils comprennent un petit peu l'ensemble de la situation. Je dis toujours, alors toujours selon votre, justement, là, selon votre version, M. Paquette, le 23 mars 2009, votre avocate vous a appelé.
Non, elle m'a appelé le 22. Elle a reçu le chèque le 23 mars et elle m'a téléphoné le 22 avril, deux mois plus tard.
Elle a reçu un chèque et elle, attention là, elle n'a pas reçu un chèque de 280 000 dollars là.
Non.
Alors, elle a reçu un chèque de 5 000 dollars. C'est un chèque de 5 000 $. Et elle vous dit que c'est un chèque qui était conclu hors cours.
Non, voilà. Règlement hors cours.
Règlement hors cours. Mais le problème est tout le problème. Vous jurez dur du fer que vous n'avez jamais, et je dis bien jamais, accepté cette entente, que vous n'avez jamais dit quoi que ce soit à ce sujet. Encore pire, vous étiez étonné d'être informé par votre avocate de cet échange. C'est exact.
Exact.
Et vous venez ce matin nous dire que votre avocate, de son progrès, hein, son propre progrès justement, oui, vous a vendu pas trop cher.
En plein ça. Si on peut l'énumérer comme ça, c'est en plein ça.
Maintenant, voilà comment vous êtes justement, chère autrice, voilà comment M. Paquette est tourné contre son avocate. Et M. Paquette, vous l'avez poursuivi devant plusieurs instances et vous n'étiez pas non plus malheureusement chanceux dans votre malheur puisque votre avocate a accédé à un poste de procureur de la couronne et vous pensez que ce statut lui a donné plus de poids pour vous réduire au silence.
Ah, exactement, M. Zetoni.
C'est troublant.
C'est troublant, puis à un moment donné, là, je veux pas dire des choses, mais...
Mais moi, j'aimerais bien vous poser la première question dans ce que j'ai résumé. Combien de fois vous êtes allé devant le tribunal pour être déclaré, pour arriver à la fin d'être déclaré curulent?
Simplement 7 fois.
Combien?
7.
7 fois?
7 fois.
Devant quelle instance? Pouvez-vous me
dire? Devant la cour, au départ, ma poursuite était devant la cour supérieure.
OK.
Puis après ça, bon, je suis allé en appel. Le premier procès, ça a été devant le juge Fournier, un règlement hors cours. Ensuite, je suis allé en appel.
Règlement hors cours négocié dans votre dos.
Dans mon dos, oui, c'est ça. Ensuite, je suis allé, bon, au désaveu. Mon avocat, j'ai engagé un avocat et il est allé en désaveu de maître de mon avocate. Puis, si je peux l'énumérer, pareil, c'est maître Lecomte. Bon, on est allé en désaveu de l'avocate. Et moi, aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi mon avocat, à l'époque, est allé en désaveu de l'avocate et non sur son expérience? Mm-hmm. Je veux pas inventer, j'invente pas des choses, c'est la réalité. Mon avocat, à l'époque, refuse de venir en appel de la décision du juge Désiel, mais je découvre un an plus tard qu'il est engagé par la défense. Coïncidence, qu'on va me dire? Oui, je trouve que c'est une drôle de coïncidence.
Il ne faut pas qu'on se perde dans le détail.
Non.
Maintenant, est-ce qu'il y a, réellement une entente hors cours? C'est ça la question que j'aimerais vous poser.
Il y a eu une entente hors cours entre eux. Regardez, je vous ai soumis, bon,
j'ai devant moi toute une administration là-bas.
C'est ça. Je dois écrire au juge en chef maintenant parce que je suis quérulent. Bon, tu sais, quand on parle de règlement hors cours, moi, j'ai fait sortir le 26 juin 2013.
Oui.
J'ai fait sortir les notes sténographiques par un sténographe officiel, oui. M. Jean Larose. Voici ici la facture.
Exact.
J'ai la preuve devant vous, bon, qui est datée du 26 juin 2013. Et moi, après l'écoute du CD audio, on dit qu'il y a eu un règlement hors cours. Mais si j'écoute le CD audio qui est...
Vous n'étiez pas présent?
Non.
Vous n'étiez pas présent?
Non, mais j'étais pas présent le 13 mars. Okay. Là, mon avocate m'a fait partir, m'a dit allez réfléchir quelques jours, puis pensez à l'offre, puis on se rappelle.
Mais est-ce qu'elle vous a fait l'offre de 5 000 $?
Elle, elle m'a offert 5 000 mais j'ai jamais accepté ça.
Vous l'avez refusé?
Oui, j'ai refusé. Je vais vous le montrer tantôt. Puis même elle, l'avocate, vous avez les preuves devant vous. Là, je vous ai...
Mais pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est tout à fait normal, il semble normal, de quelqu'un qui réclame 280 000
accepte 5 000
et on descend à 5 000. Si vous le refusez, c'est tout à fait...
légitime.
C'est légitime. Hein,
c'est dans l'ordre des choses.
C'est dans l'ordre des choses.
Tu sais, quand je vous disais qu'il n'y a pas eu
de... Pour vous, 5 000 c'est comme une insulte. Si
ben, c'est une insulte. C'est ridicule.
Alors, si vous l'avez refusé et vous déclarez aujourd'hui que vous l'avez refusé, vous pouvez appuyer sur un bon sens, le bon sens, quoi.
C'est le bon sens. Puis, comme je vous disais tantôt, moi, j'ai fait sortir les normes scénographiques du 13 mars, numéro de dossier 540-17-00-21-81-062. Par un sténographe officiel. Et le sténographe officiel marque, la version de mon avocate Lecomte, qu'il n'y aurait pas de règlement hors cour pour le produire. La cour, le juge Fournier, dit « Est-ce que vos clients sont ici? » Mon avocate répond « Non, j'ai fait quitter. Ça s'est fait à grand contre-corps, je vous dirais. » La cour, le juge Fournier, « Mais j'aurais voulu expliquer. » Donc, c'est clair que je ne suis pas la cour. OK? Et mon avocate répond, on ne voulait pas qu'ils soient en présence l'un de l'autre. Donc, c'est l'avocate qui me demande de partir du palais de justice.
Oui, oui, c'est
puis,
vous n'étiez pas là, c'est ça qui
est j'étais important. Pas là. Vous et le
là,
point que je tiens à soulever, le sténographe officiel dit qu'il n'y aurait pas de règlement hors cour.
Vous êtes en train de nous soumettre ici
des preuves. Originales.
Oui, hors tout doute, comme quoi qu'ils disent que vous n'étiez pas là au moment de la... L'entente.
De l'entente.
Okay.
Et puis qu'il n'y en a pas de règlement recours.
Okay.
Et selon des notes sténographiques.
À partir des notes sténographiques officielles.
Et vous ajoutez aussi que vous dites, vous êtes en train de le répéter à plusieurs reprises, comme quoi vous n'avez jamais accepté, ni...
J'ai jamais...
Est-ce qu'il y avait des témoins? Il y avait quelqu'un qui peut témoigner ou quoi que ce soit? À part
oui,
la preuve que vous avez là. Vous avez
ma conjointe, ma conjointe peut témoigner et mon employé... Mon employé de l'époque, exactement, lui aussi, il mentionne qu'il n'y en avait pas de règlement. Et on s'entend. Bon, tu sais, quand je vous disais tantôt que même l'avocate, à quelque part, là, peut pas dire que j'ai accepté. J'ai la preuve des notes scénographiques ici. À ce moment-là...
M. Paquet, t'as pas pour ne pas rentrer. Ça, on a bien compris. On voit devant nous comme quoi les...
Mais juste pour dire que à un moment donné, mon avocate, quand je vous dis, elle-même peut pas dire que j'ai accepté. Je lirai pas toute la page.
Oui.
Mais à un moment donné, mon avocat lui demande, en 2011, mais vous savez pas si c'est verbal ou qu'il a répondu de façon verbale. Là, il parle de moi.
Oui.
OK. Mon avocate dit, ou si il s'est hoché la tête, non, ça, je ne peux pas vous dire. Donc, elle ne sait pas si j'ai répondu verbalement.
Elle n'était pas certaine, c'est
elle
ça?
Elle ne sait pas.
Certain,
elle ne sait même pas si j'ai hoché la tête pour répondre, pour dire oui ou non.
Mais tout ça, là, c'est le tourbillon autour de ça.
Mais je suis déclaré curulent parce que je lui ai démontré ces preuves-là.
OK.
Parce que vous essayez de faire admettre au tribunal... Il y a eu erreur.
Ouais, mais à un moment donné, là, rendu à ce point-là, est-ce qu'on parle juste d'erreur ou là d'abus? D'abus judiciaire volontaire.
Et dans ce contexte-là.
Intentionnel, volontaire.
Et dans ce contexte-là, pour amener le débat autour de la quérulence, dans le cas présent, on utilise cette notion qui est empruntée à la psychiatrie pour refuser à un justiciable le droit d'ester en justice.
Exactement.
Et là, c'est grave.
Les garanties judiciaires, parce que c'est garanti par la charte.
La charte.
Et la charte québécoise et la charte canadienne.
Oui, mais Ernest, M. Paquet, il a passé 7 fois. Mais il n'a pas passé juste pour la même requête. Hein. Il y avait plusieurs. Hein.
Puis, quand je suis passé, si je peux juste lire juste un point du jugement, qui est vraiment pas long, du 26, le jugement du 8 octobre.
Qui veut dire quoi?
Que le juge m'a déclaré curulent.
Oui.
Moi, quand je suis allé à la cour le 26, c'était pour démontrer le conflit d'intérêts. Je n'entrais pas trop dans le détail, mais c'était pour démontrer le conflit d'intérêts entre les deux avocats. OK? Et le juge, au point 7 de son jugement, dit « Il appelait requérant à tout d'inquirulent. Il s'entête à vouloir avoir raison. » alors que la chose jugée, qu'il y a chose jugée sur la transaction. À quelque part, là, j'ai raison, il n'y en a pas eu de transaction. La note du 13 mars le mentionne, qu'il n'y a pas
de... mais revenir sur cette audience-là, vous étiez, vous ont accordé la parole 10 minutes ou...
10 minutes.
Mais est-ce que c'est vous qui avez commencé le premier?
Non. Ou... C'est moi qui est le demandeur.
C'est demandeur.
Et moi, j'ai les deux avocats, maître Yves Carignan et maître Caroline Tremblay, qui étaient de la défense, les deux. C'est eux qui ont commencé à argumenter en premier lieu.
Oui.
Ils ont parlé pendant 49 minutes.
OK.
49 minutes. Ici, j'ai le procès verbal. Oui. Ils ont parlé pendant 49 minutes.
Et quand c'était votre tour, ils vous ont accordé 10
minutes?
J'ai eu droit
11 minutes.
Okay. Voilà.
OK. Et en défense.
En défense. Alors, en défense. Demandeur.
En demandeur.
Oui. Voilà encore une fois l'illustration d'un processus judiciaire.
Et ils ont retourné, ils ont viré le fardeau de la preuve.
Ils ont viré le fardeau de preuve à l'envers.
Voilà.
Ils ont permis aux avocats de défense de parler
et
le
vous,
premier.
Et vous, monsieur Paquette, là, vous pensez réellement que si un avocat, je sais pas, là, parce que vous êtes passé quand même pas à travers un seul juge, vous avez passé à travers combien de juges? Plusieurs juges. Et tous ces juges-là, ils avaient, pour vous, tous ces juges-là, ils avaient tort. Et comment vous pouvez expliquer ça? Là?
Je peux expliquer ça. Parce que, bon, je suis pas avocat et... À un moment donné, on dit « Ah, je dépose pas les points de droit au bon moment. » À quel point, je me dis « Peu importe que ce soit des points de droit ou pas, les faits sont là, les preuves sont là. » Mais à chaque fois que je veux énumérer ces faits-là, on me bloque. Les avocats adverses disent « On s'objecte, monsieur le juge, ce n'est pas pertinent à la cause.
Voilà. » Et qu'est-ce qui vous a empêché d'avoir un avocat dans votre dossier?
Parce qu'il ne veut pas prendre le dossier. Je n'aimerais pas cet avocate-là parce que en onde, parce que de qu'est-ce que l'avocate m'a dit, je ne la nommerai pas en onde. Mais j'ai rencontré une avocate à Terrebonne le 11 septembre. Et vous doutez que j'ai enregistré la conversation. Parce que maintenant, j'ai plus confiance aux avocats. Fait que quand je rencontre des avocats, j'enregistre la conversation. Et cette avocate-là, à un moment donné, a dit « Le chèque de 5 000, l'avez-vous eu, si? » Non, j'ai jamais eu ce chèque. Blablabla, il y a bien des choses qui sont discutées. Et à un moment donné, elle me dit, c'est qui l'assureur de Nutrition Fitness Cardio, l'endroit où est-ce que je suis tombé?
Oui.
Elle me dit, Desjardins? Je dis, Desjardins, oui, c'est des hosties de pourriture. Excusez mon sac, mais c'est ça. Et l'avocate me dit, si, c'est un hostie de magouille, ton affaire. Je sais pas quoi vous dire. J'ai eu un courriel le lendemain comme quoi qu'elle peut pas prendre mon dossier. Ses patrons refusent de me représenter.
Oui, mais...
Parce qu'ils n'ont pas l'expertise dans leur domaine. Spécial.
Oui.
Mais vous, maintenant, vous êtes déclaré quirulant. Vous ne pouvez plus revenir devant
non,
le
Non, là, je dois déposer... Je vous ai donné une brique qui a un pouce d'épaisseur que je dois envoyer au juge en chef.
Oui.
J'ai bien hâte de voir.
Vous avez mis beaucoup d'argent sur cette histoire-là.
Regardez, je ne calcule pas depuis 2009, surtout depuis cette injustice-là. À un moment donné, tu sais, si on remonte là, en 2009, même en 2007, que le propriétaire a admis sa responsabilité, je me répète, oui, mais pourquoi il y a eu un procès pour déterminer la responsabilité alors que le propriétaire a admis. C'est lui-même qui. C'est pas moi, là. Oui. C'est lui-même qui l'admet la sienne.
Oui.
C'est assez loufoque, là. Puis, bon, j'aimerais juste soulever...
Monsieur Pacquet, juste avant de passer, et avec toutes les preuves que vous avez pu, finalement, vous n'avez pas eu l'occasion de présenter toutes les preuves devant un juge.
Non.
C'est ça.
J'ai pas eu l'occasion. Puis, bon, si on revient aux noces monographiques du 15 mars 2007, qui sera pas long, l'avocat, à l'époque, qui représentait le Nutrition Fitness Cardio, maître Marie-Pierre Damour, elle dit, il vous a répondu, en parlant de son défendeur, moi, je pense que lui, ce qu'il a dit, il a proposé de l'installer à M. Paquette. Il a dit non. À partir du moment où il dit non, bien, ça demeure de sa responsabilité. Donc, le fait que le propriétaire m'aurait proposé d'installer une rampe temporaire, et moi, j'ai dit non, donc c'est clair, ça devient de ma responsabilité. Mais ça, il faut qu'il prouve que j'ai dit non. Mais je n'ai pas à prouver que...
Ah, c'est ça, le propriétaire, il a dit ça.
Oui, c'est ça.
Mais pourquoi il a admis sa responsabilité? Là, il y a une contradiction, là. Vous, on comprend
ben,
rien,
c'est
là.
Ça. Moi, le propriétaire dit que j'aurais dit non à l'installation d'une rampe. Ça, vient le prouver. Ça, on parle de vous dire. Mais moi, la version du propriétaire qui dit qu'il admet sa responsabilité, j'ai pas à... c'est pas du vous dire. Il admet. Il y a un autre point à la page 21 des notes scénographiques. Il dit, parce que je voulais pas que personne monte là. Admettons, tu sais... Quelqu'un monte en haut, un enfant ou quelqu'un, puis qui arrive de quoi? Tout était fermé. mais il me permet à moi d'être là. Mais il veut pas que personne monte en haut.
Ouais, mais là, vous nous confiez un petit peu, parce que là, vous nous parlez un petit peu comme quoi il a admis.
Ben c'est ça. Il a admis sa responsabilité.
Vous nous ramenez à quelque chose comme quoi il a pas ici, il a pas admis. Donc c'est ça.
Non, il a admis sa responsabilité. Lui, mais il permettait à personne de monter en haut. Ouais. Le seul fait que le propriétaire dit, c'est que moi, j'aurais dit non à l'installation d'une rampe. Prouve-le que j'ai dit non. Ça, on parle de oui dire, monsieur okay. Zetouni.
Oui, oui. Maintenant, tout ce que je veux savoir, c'est clair, comme quoi ils vous ont fermé la trappe, comme on dit. Oui. Quel est le sentiment que vous avez? Je sais que vous aurez aimé continuer à se débattre devant la cour jusqu'à, je sais pas, à un moment donné, il faut qu'on comprenne. On n'arrive pas là. Mais quel est le sentiment que vous avez derrière? D'avoir été déclaré curulent et que vous ne pouvez plus revenir devant la cour.
Je me sens comme un moins que rien, une personne qui n'est pas entendue, qui n'est pas respectée. Selon la Charte canadienne des droits de la personne, on doit respecter les droits des citoyens. Je me sens comme une personne qui est carrément bafouée par la justice, qui ne veut pas. À quelque part, là, la justice ne veut pas admettre qu'elle a commis une erreur. Puis, je veux pas blâmer tous les juges dans cette histoire-là, parce que, à quelque part, le premier juge, Fournier, mon avocate n'a pas déposé les preuves en conséquence de l'admission du propriétaire. Mais il y a une chose, par contre, M. Zetouni, qui a été déposée. Mon avocate dépose à la cour une requête intitulée « Réponse ». Cette requête-là a été déposée le 2 mai 2007. Je ne vous lirai pas tous les points. Le seul point que...
Surtout pas.
Non. Le seul point que je veux en venir, c'est que c'est au point 22 qu'elle a déposé. Ce point 22-là marque « Le représentant de la défendresse a d'ailleurs admis qu'il ne permettait à aucun de ses employés ou clients, parce que le magasin est ouvert pendant mes travaux, de se rendre sur la mezzanine, considérant que la situation était trop dangereuse, vu l'absence de rampe. Oui. Cette requête-là a été déposée, mais cette requête-là n'a jamais été soulevée de vive voix devant le juge.
Alors, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de votre.
C'est ça. J'ai les preuves que vous n'avez pas
curulent. Curulent, vous n'êtes pas malade. Est-ce que vous avez été détecté, diagnostiqué comme malade mental?
Non, j'ai même rencontré un psychiatre, puis on n'en revient même pas encore que j'ai pas perdu la boule, là, avec toute l'injustice que je vis.
C'est vrai que c'est douloureux, je comprends. Ouais. C'est un traumatisme et tout. Mais ça vous amène aussi. Et finalement, la recherche de la quête de la justice, c'est ça qui va vous rendre maintenant plus malheureux ou...
C'est ça qui me rend au point que je sais plus où j'en suis là, dans cette requête de vérité.
Mais est-ce que vous êtes prêt à tourner la page et
Jamais, Monsieur Zetouni.
Vous allez continuer?
Oui.
Vous continuez. Alors, écoutez, chers auditrices, chers auditeurs, nous allons juste faire une petite pause musicale et on va revenir avec notre invité, Monsieur Pogan. Il est docteur en médecine vétérinaire. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs. Alors voilà, nous sommes au retour avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine, le Québec. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, il est comment un juge peut déclarer aussi facilement un individu, plaidant curulent. Et de ce fait, justement, l'individu en question, il sera ou il est réduit en silence. Est-ce que c'est exact, Ernest?
Absolument. C'est, comme je disais au début, c'est instrumentaliser la psychiatrie de manière à réduire les dissidents du régime au silence. On a un bel exemple ici avec le témoignage précédent qu'on a eu. Maintenant, on va
avec M. Paquette, M. Paquette. Il a essayé quand même de simplement de dire qu'il n'a pas été entendu, finalement.
Cherche à obtenir justice malgré la prépondérance des preuves qui sont disponibles. Ouais. Pour le réduire au silence, on lui attribue un faux diagnostic de quirulence au terme d'un exercice qui est farfelu.
Mais sur la question moteur, la question centrale, comme quoi quelqu'un qui va accepter un montant de 5 000 $, alors que lui il réclame 280 000 $, voilà. on a un problème.
Voilà. Et c'est ça qui. J'aimerais seulement faire une petite parenthèse aux auditeurs. Je connais un cas en quel un dommage de 100 000 $ a été demandé à la cour. Le dommage a été démontré. et pour atteinte à la probité à la personne. Et la Cour a offert 100 dollars de dommages.
Oui. Et encore pire, je sais que dans le journal de Montréal, il y avait quelqu'un qui a obtenu quand même un montant de 57 000 dollars. Pourquoi? C'est rigolo. Parce qu'il poursuivait quelqu'un qui a laissé son chat faufilé entre deux voitures et il était sur une bicyclette. Il a causé la chute de ce monsieur-là. Hein.
Oui, il a causé sa chute. Puis, bon, monsieur Desrochers, il a subi simplement une seule fracture de son épaule droite. Oui. Et monsieur, ben, une semaine après, recommençait à travailler.
Et vous ne travaillez plus jamais, là?
Ben non, moi, je suis plus capable de travailler avec les 27 fractures que j'ai eues. Et moi, j'ai été 3 mois à l'hôpital.
Et c'est vrai, intensif. Parce que j'ai devant moi quand même l'article qui est marqué c'est la faute d'un chat. Alors, c'est la faute du chat. Alors, imaginez-vous, pour un chat qui a causé la chute d'un cycliste. Le cycliste a pu obtenir 57 000 dollars
pour une seule fracture. 27,
alors, pour ça. 27 fractures aussi, on pose la question, on se repose la question, est-ce qu'il y a une certaine justice là ou non? Je ne peux vous répondre. Alors, monsieur, directement, on passe à monsieur Lévy Pogan.
Lévy Pogan.
Alors, si je résume rapidement de ce que j'ai entendu de vous, donc, vous êtes originaire de la Roumanie?
Oui, je suis roumain d'origine.
Et vous êtes docteur vétérinaire de formation?
Oui.
Vous êtes venu s'installer au Québec avec votre famille, dont le but, j'imagine, pour travailler et mener une vie beaucoup meilleure?
Oui. Et pas nécessairement pour meilleur, mais pour se sauver. Hein.
Sous le statut de réfugié politique.
Plus important, alors, au bout de fil, vous découvrez rapidement que vous êtes parmi ces milliers de personnes qui se sont piégées par Immigration Canada.
Non, pas nécessairement, parce que j'aimerais nécessairement faire une petite correction.
Oui.
Moi, je suis dans la catégorie de réfugiés politiques qui a cherché la paix et la sécurité au Canada dans les circonstances en lesquelles je me suis engagé dans une bataille contre le régime de la dictature portée par l'ancien président de la Roumanie, Ceausescu.
Ah oui, voilà, voilà. Mais quand même, je reste toujours sur le plus important. Vous êtes quand même détenteur d'un doctorat en médecine vétérinaire de la Roumanie.
De Roumanie, oui.
Mais une fois arrivé ici au Québec, la terre promise. Alors, vos études en médecine sont tombées à l'eau. Rien n'est reconnu, bien sûr, c'est ça?
Ben,
les diplômes ne sont pas reconnus, vous
êtes quoi? Je suis un pathologiste vétérinaire de Roumanie.
Oui.
Je suis venu avec 8 ans d'université de Roumanie.
8 ans?
8.
OK.
Exactement. 6 ans d'université et 2 ans de poste, des études post-universitaires et des spécialisations, qu'elles ont été réduites à un amas de 3 ans d'université ou de collège par le gouvernement du Québec pour que, effectivement, on ne puisse pas intégrer la société. Et j'aimerais souligner aux auditeurs que pour intégrer la société dans l'activité professionnelle, il fallait que je paye environ 25 à 30 000 dollars de dépenses pour...
25 à 30 000 dollars?
Oui.
C'est pour intégrer le marché de travail, là.
Les coûts de s'organiser pour entrer dans l'ordre professionnel.
Vous avez quand même, monsieur Pogan, vous avez quand même... En tout, si vous me corrigez, vous avez fait 14 ans d'études.
Oui, j'ai fait un doctorat à l'Université de Montréal, ici au Québec, par la suite,
okay.
En physiologie.
En physiologie.
Oui.
Alors, 14 ans d'études. Écoutez, là, je suis prêt là, pour commencer à travailler. Vous envoyez vos CV?
Ben, c'est certain qu'on envoie le CV, on fait des recherches pour s'intégrer dans les activités académiques,
voilà.
Ou éventuellement dans les activités de recherche où il y a de la possibilité de s'intégrer dans ces activités. Mais le spectre d'activités dans les activités académiques et universitaires, c'est très restreint, c'est très partisan. Et de l'autre côté, dans les activités scientifiques, il y a encore un champ d'activités beaucoup plus limité parce que l'activité de recherche médicale qui s'est faite au Québec est excessivement limitée et certainement que ça va se voir d'ici quelques temps sur l'activité, la sécurité de la population.
Écoutez, M. Pogan, revenons directement à la première entrevue que vous avez eue ici au Québec.
Ben, c'était une entrevue que j'ai obtenue dans une compagnie qui s'appelle Chance River Laboratories, récemment achetée par Chance River.
Mm-hmm.
J'étais soumis à une discrimination raciale hors de l'ordinaire dans les circonstances en lesquelles je me suis présenté avec les documents nécessaires pour prouver les choses
la
que j'avais.
La qualification
que j'avais décrite d'ailleurs dans mon CV.
Oui.
J'étais soumis à une discrimination raciale hors de l'ordinaire, oui. Que je ne comprenais pas pour sur les coups très bien dans le cadre législatif de la législation canadienne et la oui. législation québécoise, mais qu'elle m'a frappé parce que on peut pas dire à une personne qui a des études aussi élevées que ces études ne sont pas bonnes parce qu'elles sont originaires de Roumanie.
De Roumanie,
c'est exactement.
C'est bizarre. Hein?
C'est choquant. C'est vraiment choquant.
Alors vous êtes devant la personne qui vous entrevue, qui de l'entrevue, et vous exposez un petit peu vos qualifications et
exactement.
Vos informations, vos connaissances. Et sur le coup, directement, le monsieur vous dit...
Ça sert à rien, c'est bon à rien. C'est,
vous dites que vous avez fait, ça vaut rien.
Ça vaut rien au Québec.
Parce que c'est fait en Roumanie.
Parce que c'est fait en Roumanie, ouais. Et ici, vous n'êtes pas reconnu ni par Canada, ni par Québec, ni par l'ordre professionnel, ni par... Il n'y avait absolument aucune dimension d'ordre professionnel
il
dans cette
ça,
activité.
Et monsieur Pogana, juste pour être précis là, il vous dit ça malgré que vous avez fait des études ici à l'Université de Montréal.
Malgré. Et effectivement, malgré que j'ai fait des études à l'Université de Montréal et j'ai un doctorat, un autre doctorat, parce que j'ai un doctorat de Roumanie
oui.
et un deuxième doctorat de l'Université de Montréal, de la faculté de médecine. Et c'est hors de toute dimension raisonnable. C'est pas compréhensible.
Mais si alors, je peux juste ajouter un point, ça oui. veut dire que les gens qui étudient ici, mettons, dans votre branche, puis s'en vont en Roumanie, ils seront pas reconnus.
Ben, disons que c'est sûr et certain que il y a des dimensions limitatives à des reconnaissances, mais pas à ce niveau-là. Quand mais une non, personne présente deux doctorats devant...
Monsieur Pogana, parce qu'on perd du temps, là.
C'est ça.
On va juste revenir un peu... vite, rapidement, là.
Oui, c'est que après avoir vécu cette discrimination... Vous avez entrepris le chemin des tribunaux.
C'est naturel d'avoir fait un recours auprès de la Commission des droits de la personne du Québec, parce que c'était la voie de le faire. C'était une discrimination raciale interdite. Oui. Et je me suis engagé de manière très responsable à faire un plainte
devant la commission
auprès de la Commission des droits de la personne.
Et vous reprochez exactement quoi?
Et je reprochais ça, qu'est-ce que je viens de dire. Ça serait très long à dire toutes les reproches que oui. j'ai faites, mais j'ai fini par dire que c'est une dimension qu'elle, la commission est dans les mains de la commission pour la régler, parce que la charte protège contre ces sortes d'activités
oui.
et il y a la loi d'accès à l'égalité à l'emploi qu'elle permet à des institutions de l'État de faire pression sur des compagnies, des corporations pour faire l'intégration des gens. Mais probablement, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que...
Vous forcez pas la compagnie de vous engager, mais vous...
Non,
c'est
non,
le traitement
non.
qui
on veut,
est...
On veut pas le traitement en
c'est
soi.
C'est ça, exact.
Le problème, c'est que ils m'ont dit que j'avais tort sur la discrimination, que je ne savais pas qu'est-ce que c'est la discrimination.
Ils
m'ont
expliqué...
Et la commission.
Okay.
Ils m'ont expliqué, malgré que tout ça, qu'est-ce que j'avais reproché, a été confirmé par les avocats de Steigman Elliott, par un avocat escroc de Steigman Elliott. Il a tout mis sur papier, toutes les reproches que j'avais faites, et ça en considération, en violation flagrante des lois professionnelles qui okay. existent au Québec.
Okay.
Et c'est très clair que l'avocat ne connaissait pas les lois, ne voulait pas faire l'effort.
Quand vous dites qu'un avocat ne connaissait pas les lois, là...
Les preuves sont là. Oui. C'est signé par lui. Je n'ai pas forcé l'avocat d'écrire ça.
Okay. Il interprète mal les lois ou...
Mais oui, catégoriquement. Il ne veut pas reconnaître. Il ne veut pas reconnaître la limitation des lois. Il ne veut pas reconnaître les paramètres de la loi.
Oui.
Et ça, qu'est-ce que les lois signifient en termes d'intégration professionnelle et d'activité professionnelle. J'aimerais seulement souligner oui. pour les auditeurs, et il faut comprendre que la corporation professionnelle, l'ordre professionnel, protège ses membres pour les contacts avec le public. Dans les activités de recherche, on ne fait pas de contacts avec le public. D'un côté, les médecins vétérinaires qui vous traitent les petits animaux, là, ils sont des animaux qui sont les vôtres. Dans les activités de recherche, on soumet les animaux à la souffrance de manière délibérée pour qu'on puisse protéger la population. On tue des animaux de manière délibérée pour voir quelles sont les lésions installées dans les processus toxicologiques, dans les processus pathologiques. Donc c'est une activité d'une responsabilité énorme qui ne peut pas être intégrée ni par la loi sur les médecins vétérinaires, ni par le code d'éthique des médecins vétérinaires au niveau des protections de la population, du public, et au niveau de la protection de des activités scientifiques.
Ben, c'est la même chose quand vous appelez, quand vous dites que, bon, les associations, si vous appelez au barreau, au conseil de discipline du barreau, au syndic du barreau, le message dit que le syndic du barreau est là pour protéger le public.
Voilà.
Eh bien, je suis pas sûr qu'il
Mais revenons maintenant à la commission. Alors, vous faites de la commission. Qu'est-ce qui est arrivé après, alors?
Ils ont rejeté
La demande est rejetée.
Ma demande a été rejetée. La plainte a été rejetée.
Okay.
Alors, je me suis présenté devant le tribunal des droits de la personne, exactement comment la charte le prévoit, ouais. En la base des articles de loi.
Est-ce que vous étiez conseillé par un avocat? Vous avez vu, vous avez pu voir un
au
avocat?
Départ, au départ, oui.
Pour être certain que vous.
Exactement. J'étais conseillé par des avocats, je cherchais des informations, oui. Mais je ne pouvais pas payer. C'est tellement cher, oui. C'est exorbitant.
Mais vous dites que vous avez consulté des avocats pour être certain que vos démarches sont justes.
Exactement. Okay, et j'ai un très grand support de la part du tribunal des droits de la personne qui m'a aidé et qui m'a conseillé. Les personnes qui ont été là ont donné beaucoup d'aide à la compréhension des choses. On a travaillé le dossier ensemble et on l'a fait de manière relativement impeccable.
Directement, vous étiez à la Cour supérieure.
Oui, d'accord, c'est pas moi qui est allé à la Cour supérieure. C'est le tribunal des droits de la personne qui a fait le transfert du dossier parce qu'il a.
Pour incompétence
Pour incompétence. Le tribunal a dit qu'il n'a pas compétence à juger un problème de discrimination et un problème d'accès à l'emploi. C'est incroyable, mais c'est vrai parce que l'activité du tribunal a été bloquée par l'honorable juge Lebel de la Cour suprême du Canada avec un jugement qui est, excusez l'expression, c'est un jugement de bille. Un jugement politique qui bloque trois articles de la Charte du Québec ont été bloqués par l'interprétation unique du juge Lebel quand il était à la Cour d'appel du Québec.
Et le dossier a été retourné à la Cour supérieure devant Gaston.
Non, pas nécessairement devant Gaston. Le procès avec les barreaux du Québec, parce que dans la procédure, j'ai intenté une procédure contre la compagnie, qu'elle a été devant la commission et devant le tribunal des droits de la personne, et qui a été transférée à la Cour supérieure. Et par la suite, des avocats m'ont dit, mais écoute, ton problème est aussi bien le problème avec la compagnie, mais la fraude judiciaire a été faite par Steigman Elliott. C'est les avocats qui ont fait la fraude et l'abus qu'elle est incontestable et irréfutable dans ces conditions. Alors, il y a une première partie contre la compagnie qui a été bafouée par la juge Eva Petras dans une condition de parjure qui ne peut pas être compréhensible.
Un juge qui parjure?
Non, pas le juge. La compagnie s'est parjurée.
Oui, oui.
Mais tous les protocoles de parjure ont été faits avec les avocats de Steigman Elliott ensemble.
Oui.
Et il y avait la deuxième procédure avec les barreaux de Québec, en laquelle, effectivement, je me suis plainte contre l'activité des avocats, d'un avocat particulièrement.
Et même à ce stade-là, c'était rejeté?
Mais c'est rejeté parce que, regardez, dans les circonstances en lesquelles j'étais présent devant le tribunal, moi j'étais abusé de manière extraordinaire par l'ex-juge en chef adjoint de la Cour supérieure, M. Véry, qui a fait un abus de pouvoir et dimension de stracisme hors de l'ordinaire et qui voulait me démontrer que la justice c'est lui et que la justice se fait comme il veut. Mais ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai porté plainte contre le juge Véry auprès des conseils de la magistrature.
Oui.
Exactement. Ça n'a donné absolument rien que des problèmes. Mais entre-temps, il y avait le procès qui se déroulait devant le juge Gascon qui a été récemment nommé à la Cour suprême du Canada, et qui, le 19 février 2010, Monsieur le juge Gascon a commis une des plus grandes erreurs judiciaires, d'après mon opinion, une fraude judiciaire qui est impardonnable de la part d'un juge, qui puisse violer les droits fondamentaux d'une personne, qui puisse violer les chartes dans une manière aussi outrancière, c'est impardonnable. Mais le problème, c'est qu'il a émis une décision en quel moi j'étais même pas présent devant le tribunal parce que je lui ai déclaré que je n'ai pas confiance dans sa probité et dans son dans sa capacité de juger dans la cause de l'engagement.
Et après le, au terme de l'exercice, vous avez été déclaré plaideur quérulent.
C'est lui qui m'a déclaré.
Vous avez déclaré quérulent.
C'est ça. C'est lui qui m'a déclaré plaideur quérulent parce que je lui avais dit, je lui ai demandé, monsieur le juge, vous ne pouvez pas continuer de juger cette
cause.
Vous
demandez de se récuser.
Il a refusé de se récuser. Ils refusent tous de se récuser malgré les preuves. Mais au juge Gascon, moi, j'ai demandé qu'il fasse expertise médicale. Voilà. Il ordonne une expertise médicale pour le tribunal, pour que le tribunal sache ou que ça s'avère si je suis malade mental ou pas, et que j'ai pas...
Il a refusé. Précisons toujours que la quérulence appartient au domaine de la psychiatrie, non pas au domaine de la justice.
J'aimerais définir qu'est-ce que c'est défini la quérulence par le dictionnaire Larousse. Elle est une tendance pathologique à réclamer la réparation des dommages et d'injustices dont on se croit victime. Alors, on se présente devant la justice pour réclamer justice,
un droit, oui.
Ses droits, une réparation.
Oui.
Et là, on vient nous dire dans une autre dimension que nous cherchons à démontrer que nous cherchons des injustices imaginaires ou que je ne sais pas de quoi il s'agit là, mais en tout cas, le problème c'est que la quérulence, ça dérive de la psychopathologie. Elle devrait être encadrée. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais faire de la quérulence un outil d'ostracisation de la population et d'abus de pouvoir, c'est totalement interdit. Et même dans les conditions en quelles une possibilité serait présente, qu'une pathologie existe, même un quérulant, il doit avoir les droits respectés, parce que ça c'est garanti par les chartes et c'est garanti par les règles de justice fondamentale de manière sans équivoque. Alors, quand on utilise la quérulence pour fermer les portes ou essayer d'interdire aux gens de se présenter devant la justice, c'est parce que la justice a des problèmes très sérieux. Et il faut souligner que, effectivement, au Québec, il y a des problèmes, sont des problèmes très graves. L'administration de la justice souffre d'une dimension de corruption importante. Les barreaux du Québec souffrent des problèmes de professionnalisme qui sont d'une gravité exceptionnelle parce que voir les lois ignorées par un avocat, c'est effectivement c'est un abus qui dépasse les dimensions.
Vous parlez d'un désordre total.
Ben c'est un désordre total.
Incontrôlé, là. Oui.
C'est pas nécessairement. Il n'y en a pas personne qui veut contrôler quoi que ce soit.
Oui, oui,
mais on doit respecter les lois. On doit respecter les lois. Les lois s'appliquent comme elles sont écrites dans les chartes, de manière non discriminatoire, indépendamment de la condition de la personne.
Ouais.
Alors, ici au Québec, on veut laisser l'image que la justice est dans les mains du barreau du Québec, des avocats et des juges, et qu'on ne veut pas laisser aucune autre possibilité à aucune autre personne d'interpréter les lois ou de faire
action. Ce discours, vous l'avez tenu, partagé avec d'autres personnes, connaisseurs et tout, et ils sont arrivés à la même opinion que vous?
Mais oui, catégoriquement, parce que c'est très raisonnable de prétendre que la justice soit appliquée de manière raisonnable et rationnelle. J'aimerais dire aux auditeurs comment la Cour suprême du Canada définit la notion de personne raisonnable. C'est pas moi qui ai inventé ça et je n'ai pas apporté absolument aucun mot de Roumanie avec moi dans cette définition. Mais la juge Rosalie Silberman-Abel a défini la personne raisonnable dans l'affaire Color Your World. Et elle dit que la personne raisonnable agit de manière normalement avisée et diligente. Soucieuse d'autrui, elle prend les précautions nécessaires pour éviter de leur causer des préjudices raisonnablement prévisibles. Elle respecte les droits fondamentaux. En ce sens, elle ne peut pas faire abstraction des protections établies par les chartes, parce qu'elle partage les normes conformes aux valeurs protégées par les chartes. Elle prend garde de ne pas causer d'atteinte à au droit d'autrui. Mm-hmm. Alors, c'est pas compliqué, c'est tellement simple et c'est tellement bien dit. Il faut que nous respections comme société ces engagements et cet encadrement, parce que c'est un encadrement. C'est écrit dans une jurisprudence.
Monsieur Pogan, vous êtes déclaré pareil. Kirulan, oui. Plaidant Kirulan. Quel est le sentiment que
le problème, c'est que, vous savez, malgré que j'ai fait appel à la Cour supérieure et à la Cour d'appel, l'accès à la justice a été interdit de manière abusive par les juges Roland et par le juge Véry, qui était toujours en fonction dans ce temps-là.
On ne voulait plus vous entendre, tout simplement.
Effectivement, okay. pour bannir.
Il ne reste pas beaucoup de temps. Très vite, j'aimerais bien que vous me préparez. Quel est votre sentiment sur Pogan? Vous me le dites après, et monsieur Sylvain Paquette, vas-y.
Monsieur Pogan, vous avez quitté la Roumanie dans un régime dictatorial, vous arrivez au Canada, le pays de la liberté. Quelle est votre opinion aujourd'hui du Canada?
C'est lamentable, l'opinion. Je me trouve si embarrassé et si abusé par le système, surtout par le système politique, et pas, parce que toute cette dimension est une dimension politique. Elle n'est pas faite par la justice. Les juges ne peuvent pas faire la loi. C'est le système politique qui fait ces lois et qui abuse. L'introduction des articles 54 et les suivants dans le code de procédure a été faite relativement de manière abusive. On peut pas, je ne veux pas faire des prononciations avant-gardistes à cet égard, mais on s'est caché sur les SLAP. Sur le problème des SLAP, on s'est caché pour introduire ces dimensions qu'elles étaient bien présentes. Tous les juges avaient possibilité de faire de déclarer une procédure abusive ou d'interdire à une personne de faire quoi que ce soit dans la justice. Et un juge doit être représentatif et respectable. Oui. Mais quand il abuse, il n'est pas possible d'avoir du respect.
Pour vous, M. Paquette, quel est le sentiment que vous gardez, plus rapidement?
Moi, puis le sentiment, mais je veux juste amener juste...
Rapidement, on n'a pas le temps.
Quand il a parlé tantôt de la Cour suprême, là, qu'il n'a pas été entendu, moi aussi, devant la Cour suprême, je n'ai pas été entendu, et la Cour suprême a rendu deux jugements sur Internet, mais il ne marque pas les détails. Ça marque juste jugement rejeté.
Donc, seulement pour faire une petite remarque, là.
Sentiment que vous avez...
Sentiment que j'ai, je me sens comme moins que rien auprès de la justice. On veut pas m'écouter, on veut pas entendre, alors que j'ai toutes les preuves que je suis pas une personne de kirulant, puis j'ai pas été diagnostiqué kirulant, rien. Mais le juge, lui, prend la décision de dire.
Et voilà, chère auditrice, cher auditeur, oui, monsieur.
Je vais simplement faire une petite remarque, c'est que j'ai fait demande d'inconstitutionnalité de ces articles. Elles m'ont été rejetées et j'ai pas eu accès à la justice de manière arbitraire. Et ça, c'est pas permis dans une société des droits.
Voilà, chers auditrices, chers auditeurs, en arrivant au terme de cette émission, j'aimerais bien juste vous rappeler que la campagne de financement de Radio Centre-Ville est toujours ouverte. Donc, donnez, j'aimerais bien que vous donnez généreusement à la Radio Centre-Ville afin que la parole de l'autre continuera à exister. Alors, je dis merci à M. Pogan, merci à M. Sylvain Paquette, merci à Ernest et merci à M. Miguel pour le soutien du son. Et je vous donnerai rendez-vous à la semaine prochaine avec un autre sujet sur les injustices et les abus de pouvoir au Québec.
Merci beaucoup.